Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 25 janvier ou le 25 janvier, c'est lundi, 5 jours après l'inauguration de la nouvelle administration américaine qui avait un goût particulier cette fois-ci, quelque chose de totalement inconnu. Vous écoutez Flash sur le monde de Elise Mbok. Je suis toujours au Cameroun et cette émission va clore la campagne américaine que nous avons suivie de bout en bout autant que nous pouvions ici à Radio Silence. Et c'était une campagne, ce fut une campagne étrange, très étrange, jusqu'au jour du vote, le 3 novembre, je crois, ou le 6, je ne sais plus, le 3, le 6 janvier, tout ça, on s'en mêle les pattes, les pinces. Et comment dire, vous savez, à la fin d'une grande course, d'une longue course, on est vanné. Et à la fois interrogateur et on recherche, vous savez, on refait la course dans sa tête et on se dit, mais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que ça c'est trop facile. Et on revoit certains événements qui étaient déjà quand même des alertes, qui auraient pu nous alerter sur ce qui allait suivre. Mais puisque l'être humain est comme il est, on s'entête et on a ce qu'on a. Bon, pour commencer cette cérémonie, je dirais d'abord que tous ces drapeaux, vous voyez, qui étaient là, installés à la place du peuple, 200 000 drapeaux qui représentaient un peuple imaginaire, c'était déjà un peu comme si on commémorait le débarquement de la Normandie, vous savez, la commémoration des morts américains, morts pour venir, pour avoir voulu sauver l'Europe de Hitler et de la dictature. C'était assez troublant parce qu'on a là une sorte de miroir, sorte d'écho à front renversé aussi, parce que l'Amérique est venue se battre ici contre quelque chose qu'elle reproduit plusieurs années après, c'est-à-dire une forme de gouvernement sans opposition. Tous les opposants sont actuellement harcelés en Amérique et recherchés pour impeachment et destitution immédiate. Le sénateur Ted Cruz, qui était donc à la tête des législateurs républicains qui voulaient qui demandait à ce qu'on aille revérifier dans les swing states la légitimité, la conformité du vote. Il est poursuivi par un acteur de Hollywood, là, qui lui fait tout un procès, qui le traite de con, vous savez, d'enculé, voilà, c'est le mot, il faut le dire, hein. Ce qui est quand même assez fort de café de la part des gens de Hollywood dont on connaît les pratiques pédérastes. Mais c'est vous dire, mais que représente ce monsieur de Hollywood? Il représente des gens qui font partie de la plateforme qui a fait gagner la nouvelle administration, laquelle la nouvelle administration ne se prive pas de montrer que il y a un ministre homosexuel qui est là avec son mari. Il y a une femme qui était transgenre, enfin qui est transgenre, qui est un homme auparavant. Bon, enfin, on célèbre un peu toutes ces choses-là qui étaient interdites. Aujourd'hui, c'est l'interdit qui est au pouvoir, y compris l'immoralité. Sur le plan de la scène, bon, la scénographie que disait cette cérémonie d'inauguration. On a eu comme ça, et ça reviendra dans un commentaire de Guardian aujourd'hui, qui dit que c'est la faute à la Constitution, La Constitution n'a pas prévu, c'est écrit sans le peuple. Elle a écrit des institutions qui ne prévoyaient pas la présence du peuple. Et donc, pour cet éditorialiste du Guardian, en creux, on pouvait y dessiner déjà ce qu'on peut dire aujourd'hui officiellement. Ah, mais c'est la faute à la Constitution si on a volé ou triché lors des élections. Bon, ça, c'est vraiment irrecevable, mais quand même. Ce qui est bien, c'est que il y a eu un peuple, il n'y a pas eu de peuple lors de l'élection, donc le peuple est devenu fictif et probablement même que la démocratie aussi est devenue fictive. Elle s'est fictionalisée avec ce peuple virtuel. Voilà, on va avoir une démocratie virtuelle, c'est extraordinaire et c'est pas étonnant parce qu'en même temps, c'est les big tech qui commandent aujourd'hui. Vous savez, ce sont eux qui ont le droit de dire qui peut parler et qui ne peut plus parler, c'est les nouveaux grands super collèges électoraux, c'est le Big Tech. C'est lui qui distribue la parole. S'ils ne veulent pas de vous, vous allez vous faire voir ailleurs. Il y avait ça, et donc et le côté morbide, c'est non le peuple qui disparaît, et c'est aussi la démocratie qui s'en va. Tout ça a été, je vais dire officiellement, mise en scène la mort de ces deux entités de la démocratie et du peuple ont été a été la mort a été actée le 20 janvier 2020. Sauf que il y a quand même un malaise, il y a un malaise parce que franchement, il ne faisait aucun doute que Trump allait gagner et il ne fait aucun doute qu'il a gagné. Ça, c'est clair. Et la façon selon laquelle il est parti a complètement, comment je vais dire, effacé l'entrée de son successeur, de son suivant, élu dans des conditions assez bizarres, qui sont d'ailleurs confirmées, reconfirmées par deux livreurs de bulletins de vote qui ont dit, encore, il y a déjà un qui était passé, qui avait dit que lui, pour lui, tous ces bulletins de vote qu'il a livrés, ça venait, c'était certainement des bulletins de vote fictifs, et pour un électorat fictif, et on verra que il y a dans certains bureaux donc des écarts de 300 000 voix, par exemple. Et un autre a été plus précis encore, lui l'a dit de façon pour lui, ça ne fait l'objet d'aucun doute, ce n'est même pas discutable. Tout ce qui s'est passé lorsqu'il livrait les bulletins était à la fois inquiétant et à chaque fois lui regardait tout cela, les yeux ahuris, il se disait, ben, si c'est ça la démocratie américaine, c'est un scandale. Alors lui, il comprend pas deux choses, il comprend pas pourquoi. Les Américains ont le droit d'aller s'alimenter en grande surface, enfin d'aller s'approvisionner en grande surface pour s'alimenter. Il ne comprend pas pourquoi ils peuvent aller à la banque faire des retraits d'argent et pourquoi faisant cela, ils peuvent pas aller voter. Pourquoi, enfin, pour lui, le vote par correspondance ne se justifiait en aucune façon. Et d'ailleurs, lui-même, qui livrait donc ses bulletins pour des votants absents, lui, il est allé voter. Donc, franchement, ce vote, lui, il dit, c'est ça le cœur du problème. Et c'est tellement ça le cœur du problème que vous avez les acteurs de la plateforme conquérante qui a gagné, qui a triché, sont sortis. Il y a eu donc, avant de Guardian, il y a eu la sortie du Brookings Institute de New York, où il y a encore un associé, un commentateur, un analyste, un observateur politique, dit, justifie ce que moi j'appelle l'injustifiable. Il dit que oui, mais on peut très bien expliquer, enfin, il explique l'inexplicable. On peut très bien comprendre le vote de Biden, le fait qu'il a gagné, tout simplement en s'appuyant sur la démographie des territoires sur lesquels M. Biden et M. Trump font des scores. Alors, pour lui, Trump, c'est vrai, il gagne 2533, comment on va dire ça, on va dire des cités hein, ou des villes, et Biden n'en gagne que 500. Pour lui, je crois que Trump en gagne 2500. Donc 2588 exactement contre 551 pour Monsieur Biden de compter. Alors chacun a gagné cela, donc visuellement l'écart paraît trop important. Mais quand on dit swing states aux États-Unis, ça annule tout le vote national, ce qui est déjà quand même extraordinaire. Et puis lui, il dit, l'observateur du Brookings, que ben non, il n'y a rien d'extraordinaire à tout cela. Il faut comprendre que Joe Biden, il est peut-être minoritaire comme ça, mais ces comtés représentent ces villes, on va dire comme ça. Ce sont des métropoles, ce sont des grandes villes. Et donc, pour lui, c'est le fait urbain déjà qui fait que Joe Biden automatiquement gagne. Et quand on aligne sur ces 551 circonscriptions, ce qu'il gagne, il y a un surplus de 67 millions d'habitants par rapport aux 2588 habitants que gagne Trump. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. D'abord, ça suppose que tous ceux qui sont en métropole et dans les zones fortement urbanisées ont voté pour Biden. Et ceux qui sont en zone rurale, tous ont voté pour Trump. Le vote n'est pas aussi mécanique. Hein. Ça, je ne crois pas, sauf à croire qu'on est en Afrique où, effectivement, il y a un vote tribal qui peut être rapporté automatiquement en vote citoyen, si vous voulez, en électorat. Il y a ça, et après, forcément, il est obligé d'aligner des clichés parce qu'il explique l'inexplicable. Sur son plan démographique, sa description, il fait dire que l'électorat de Trump, de Biden d'abord, de Biden, parce qu'après vous comprendrez bien le contraste qui justifie ce qui ne se justifie pas. Pour lui, les métropolitains, dans les métropolitains, on distingue une grande variété. C'est là où se concentrent les Afro-Américains, les Hispaniques, les Asiatiques. Tout ce que vous voyez, tout ce qui arrive à l'étranger, qui arrive de l'étranger pour s'installer aux États-Unis et qui n'est pas vraiment anglo-saxon et réside dans les grandes métropoles, dans les grandes villes et dans en périphérie aussi, mais dans les périphéries proches de ces grandes villes-là. Donc, ce sont des gens pour lui qui sont très ouverts parce que très cultivés. Donc, il y a des critères, hein, tous les critères démographiques qui passent, hein, l'éducation, le taux de natalité, le statut marital, le revenu, l'appartenance ethnique, c'est-à-dire asia-américain ou hispanique, et puis le fait racial aussi. Il prend tous ces indices-là, il les passe, comme il dit, comme ça, au filtre, hein, de sa propre, enfin, de ce que la démographie veut. Et effectivement, on a quelque chose qui apparaît du genre plus de gens jeunes, plutôt jeunes, parce que venant d'une immigration récente, vivent dans les grandes métropoles, et ces gens-là sont beaucoup plus cultivés, ouverts aux autres, et donc ils gagnent un peu plus, ils gagnent beaucoup plus d'ailleurs, et que comparativement à ces gens-là, Trump a donc, vous voyez, vous allez dire, des territoires ruraux, des ringards, des zones qui sont très faiblement peuplées, il y a aussi la densité qui y passe, etc., etc., donc forcément moins cultivés, des sauvages, donc des barbares, ce qui permet de justifier ce qu'ils appellent l'assaut du Capitole, après le discours de Trump, qui a eu lieu juste le jour où on confirmait le collège électoral, le 6 janvier. Et bon, ça, c'est vraiment une succession de clichés, mais ce qui est sûr, c'est que ces clichés ont fonctionné pendant 4 ans de présidence Trump. Et que jusqu'au bout, on va nous rabâcher cela. Et effectivement, les pauvres étudiants vont gober cela comme étant parole d'évangile. Donc voilà, vous voyez, hein, La force des médias, c'était de jouer autour de cela, de broder autour de cela. Et quand le gardien arrive aujourd'hui, parce que quand même c'est un peu court pour ceux qui s'occupent un peu, enfin qui suivent un peu, et surtout ça fait des clichés, tout ce qu'on connaît, et ça part du principe, donc comme je disais tout à l'heure, enfin ça ignore le fait que justement dans ces grandes villes, c'est dans ces grandes villes qu'il y a plus d'étrangers, comme il dit, mais plus aussi de sans-papiers, enfin pour ne pas dire des gens qui n'ont pas encore acquis la citoyenneté, et probablement aussi beaucoup qui ne votent pas, parce qu'ils sont jeunes, si la population est jeune, il y a des gens qui ne sont pas en âge de voter, et on a vu ce que ça donnait dans les swing states, où les gens qui n'étaient pas encore tout à fait en âge de voter à 17 ans, des 17 ans qui sont allés voter parce qu'il fallait que ça gonfle. Et on a vu que des gens ont voté, ont renvoyé son bulletin de vote, ont présenté des bulletins de vote sans vérification des signatures ni d'identité. Donc ça fait aussi que une fois qu'on a dit ça, même si nous disons, admettons, il y a le fait que... Bah, et ça n'empêche pas qu'on soit à ruralité ou urbanité, ça n'empêche pas de mourir déjà, il y a les décédés qui ont voté, qu'on soit plus majoritairement jeune dans les villes métropoles, bah, il y a des enfants, ça n'empêche pas que les gens votent alors qu'ils ne sont pas encore à la majorité, et ça n'empêche pas aussi que des gens qui n'avaient pas le droit de voter aient voté, tout simplement parce qu'ils sont là et qu'on ne contrôlait pas tout le reste. Donc c'est ce contrôle-là, ce dispositif-là qu'il fallait que Ted Cruz, le sénateur du Texas, a demandé avec les 150 élus républicains, sénateurs et républicains, comme on dit, de la House, ensemble, réunis, c'est ce qu'on demandait. On demandait justement d'aller voir cela de plus près. Mais en refusant cela, c'est facile de venir déclarer, oui, j'ai gagné, mais comment on ne peut pas vérifier? On ne peut pas justifier même, mais oui, le gardien arrive et dit, aujourd'hui ou hier, mais c'est la faute à la Constitution qui n'a même pas prévu lorsque les pères fondateurs écrivaient cette constitution, apparemment, ils n'ont même pas prévu, pour eux, le peuple n'existait pas. Ils ont écrit ça dans une logique d'équilibre interinstitutionnel et d'équilibre entre guillemets, ou plutôt, oui, dans leur esprit, c'était vraiment ça. Mais sauf qu'après, vous savez, la loi, elle est faite pour être contournée. Après, la loi est contournée, comme on l'a vu, par le vote par correspondance, une hérésie interdite en France depuis longtemps d'ailleurs et qu'on ne voit plus nulle part. Et après, c'est une affaire de technologie, de big tech, parce que on ne peut pour le moment commenter que ce que l'on a vu humainement, mais ce qui s'est passé du côté de la machine, personne n'y a accès. C'est interdit d'accès à ces choses-là. Après, on peut toujours poursuivre dans la logique je vais dire, dans l'image que j'ai soulignée au début de la Normandie et de la dictature. On peut toujours demander au Big Tech de fermer la gueule à tous les opposants, à toute voix dissonante, et de la combattre parce qu'ils en sont à demander l'impeachment de Ted Cruz, c'est pour vous dire, et d'ailleurs pas seulement de Ted Cruz, de tous les hommes de loi qui ont osé demander 10 jours pour contrôler la véracité de l'élection de M. Biden. Donc celui qui a fait l'étude sur la démographie dit oui, mais ça c'est imparable, il y a 67 millions d'habitants de plus sur les territoires métropolitains que sur les territoires de Trump. Bon, ça veut dire que tout le monde dans ce territoire, mais sur ce territoire métropolitain a voté pour Biden, ce qui est mission impossible. Bon, il fallait quand même qu'on dise ces choses-là, une ou deux choses, parce qu'après, il y aura dans ce moment post-électoral qui d'ailleurs va se conclure dans 2 ans. Parce que c'est dans 2 ans, vous savez, il y a les élections. pour la house. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont payer les pots cassés, puisque beaucoup sont déjà en train de se préparer dans l'équipe Trump pour être candidat, et pas seulement de ce côté-là, parce que ce qui s'est passé là, c'est pas seulement une fraude comme ça, ce qui est déjà énorme, mais c'est vraiment la disqualification du personnel politique. Si, franchement, la désacralisation des élections est quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé pour le moment, et surtout de cette manière-là, avec toute l'arrogance, et puis on arrive, le peuple n'existe plus, tout le monde dehors, oui, la Constitution n'a même pas prévu votre existence, mais ça veut dire quoi alors que la démocratie, elle n'a jamais existé, et que faire voter les gens, depuis toujours, c'est du pipeau. Bon, si tel est le cas, c'est désespérant, mais on va se dire quand même que quand le monde est confronté à une crise comme celle-ci, il y a deux façons de réagir. Il y a, comment dire, la résignation. On peut se dire après tout, hein, c'était écrit, tôt ou tard, on devait arriver à ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les hommes ont été tellement endormis par la propagande qu'au final, ils sont pris à leur propre piège, à leur propre endormissement, mais qui continuent à roupiller et puis à déléguer les pouvoirs sans contrôler. On se résigne ainsi et on continue comme cela, d'autant plus qu'on se résigne pas seulement. Si vous parlez fort, paf, on vous claque sur les doigts. On peut dire comme cela, mais on peut aussi se dire non, ça, l'histoire n'a jamais avancé de cette façon-là, bien évidemment. Et, sauf à dire que vraiment on a changé l'homme. Et que c'est possible que l'homme unidimensionnel qui était craint a été déjà formaté à notre insu à redevenir l'esclave qu'il a toujours été sans le savoir et que maintenant il est esclave consentant. C'est possible que cela existe puisque après tout c'est curieux de voir que Google, tous ces big tech, hein, une fois qu'ils sont devenus milliardaires, s'intéressent à quoi? Ils s'intéressent à l'homme, à l'être humain. Comment le transformer? Comment lui donner si, le rendre super-homme, etc. Vous savez, toutes ces choses-là qui relevaient avant de la science-fiction et qui aujourd'hui sont réelles. Et ce serait quel homme encore? Ce serait encore une bande de zombies. On est là sur des questions que personne ne va affronter. On est là, quand je dis personne, c'est le législateur d'abord, c'est les hommes de loi, c'est la justice aussi, la Cour suprême qui carrément dort, parce que là, ça fait partie des résignés. On est là sur quelque chose de nouveau, où les institutions même qu'on a imaginées sont en train de tomber, elles sont malades, et on ne sait pas quel est le médecin des institutions. Quand les institutions dysfonctionnent à ce point, au point de devenir des pathologies, qui va soigner ces pathologies-là dans le passé? Alors, il faut se replonger dans le passé. On en a besoin, là, dans le passé. On sait ce qui a suivi ce genre de crise profonde du politique. On sait très bien que la seule voie, ça a été le combat, la pulsion de combat. Et c'est cette pulsion qui a permis, qui a autorisé les gens à monter comme ça pour aller forcer la porte du Capitole. On exagère un peu parce que si vraiment ils voulaient commettre un massacre, ça aurait été fait immédiatement. Mais c'était juste pour démontrer un peu qu'on peut faire. Je veux dire, un barreau d'honneur. Sorte de dépit. Parce que quand on n'est pas résigné, on peut être résigné par dépit aussi, mais on peut aussi, par dépit, devenir suicidaire. Bon, je suis personnellement pour penser qu'il faut toujours être optimiste. Je suis voltairienne, hein, jusqu'au bout. Et parce que Voltaire, lui, il sait qu'il faut laisser parler tout le monde et qu'on ne peut pas avoir raison tout seul sans débat contradictoire, sans débat contradictoire, vous n'avez pas raison. Vous êtes dans la tyrannie, vous êtes un petit tyran, un petit dictateur, comme dirait Hitler. Donc moi, je conclue ici cet épisode de campagne américaine. Trump est rentré en Floride. Et on a un truc bizarre, hein, il est rentré carrément victorieux. Et alors que celui qui entre, il entre bah, dans, comment on va dire, l'indifférence totale. Parce que finalement, c'est ça qui va s'installer. La résignation appelle l'indifférence. Et avec un peuple indifférent, je ne sais pas trop où on va. Voilà. Soit il laissera tout passer en se disant, bon, de toute façon, après tout, hein, que ça se fasse, on ne peut rien faire. Soit il y aura un sursaut, mais qui viendra quand même. Il viendra ce sursaut parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et comme tout le monde n'est pas d'accord, quoi qu'on fasse pour essayer de supprimer Dany, il est les dernières forces d'opposition, elles seront toujours là. Personne n'a pu, même Hitler, avec la solution finale, ça finit pas, c'est pas possible. Personne n'est Dieu. Bien, amis des radios silence, je vous dis à bientôt. C'était Elise Mbok, vous avez écouté Flash sur le monde, et portez-vous bien.
Hit, Marie.